Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le 15 Esfand, 1402 du calendrier iranien, 5 mars 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Crime contre l'humanité. Les sanctions occidentales tuent des patients vulnérables en Iran. Journée nationale de l'arbre en Iran. Le leader de la révolution islamique a planté 3 jeunes arbres. Le Hezbollah libanais tire plus de 30 roquettes sur le nord de la Palestine occupée. Et les forces armées yéménites affirment avoir frappé un porte-conteneur israélien en mer d'Arabie. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le leader de la révolution islamique a planté 3 jeunes arbres à l'occasion de la semaine des ressources naturelles et de la journée nationale de l'arbre ce mardi matin 5 mars. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a planté ces 3 jeunes arbres à l'occasion de la journée nationale de l'arbre et de la semaine des ressources naturelles. Par la suite, il s'est référé à la tenue du récent scrutin législatif et a remercié à cette occasion le peuple iranien d'avoir pris part aux élections. Pendant près d'un an, les ennemis de l'Iran islamique ont tenté de dissuader le peuple de voter et de faire dérailler les élections. La nation iranienne a accompli à la fois un devoir social et civilisationnel et un djihad, puisque sa participation aux récentes législatives a neutralisé la campagne d'intoxication des ennemis sur le récent scrutin, a déclaré l'honorable Ayatollah Khamenei. Le peuple iranien s'était rendu aux urnes et malgré la propagande partielle des ennemis, il a créé une grande épopée, a ajouté le leader de la révolution islamique. Je remercie les responsables impliqués dans la tenue des élections, les responsables de la sécurité et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la tenue du scrutin, a souligné le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran, lundi 4 mars, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a souligné l'importance de la prochaine réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, affirmant que le bloc de 57 membres est confronté à un test concernant la guerre génocidaire menée par Israël dans la bande de Gaza. Nasser Kanani a fait ses remarques à la veille d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI sur la guerre à Gaza qui se tiendra dans la ville saoudienne de Jeddah. Il s'agit de la deuxième réunion de ce type organisée en Arabie saoudite qui a accueilli un événement similaire l'année dernière. Cette guerre cruelle se poursuit sous l'ombre du bellicisme des responsables du régime sioniste et du soutien illimité des États-Unis, a indiqué le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, avant de poursuivre que demain, un test attend l'OCI qui devra montrer jusqu'à quel point elle entend faire usage de ses capacités pour soutenir la Palestine. De plus en plus de Palestiniens perdent la vie alors qu'Israël poursuit sa campagne génocidaire dans la bande de Gaza. Lors de leurs dernières attaques, les avions de combat du régime sioniste ont frappé le camp de réfugiés de Jabalia dans la ville de Gaza, tuant 8 personnes et en blessant plusieurs autres. Plusieurs maisons ont également été ciblées à Khan Younes et à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, entraînant la mort d'une trentaine de personnes. Les forces navales du régime israélien ont également bombardé les côtes de Beit Lahia au nord, mais aucune victime n'y a été signalée. Par ailleurs, les troupes israéliennes ont de nouveau ouvert le feu sur des Palestiniens qui tentaient d'atteindre un camion d'aide humanitaire dans la ville de Gaza, blessant plusieurs personnes. Le bilan des victimes de l'attaque israélienne contre Gaza depuis le début octobre dépasse désormais les 30 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants. Les combattants du mouvement de résistance libanais Hezbollah ont lancé une attaque à la roquette sur les régions du nord de la Palestine occupée, tirant plus de 30 projectiles, a rapporté la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen. Des sirènes d'alarme ont retenti dans 15 colonies juives de la région de Galilée occidentale, située au nord de la Palestine occupée, après le tir d'une salve de roquettes depuis le sud du Liban. Selon la chaîne Telegram Sabarin News, proche de la résistance, la frappe principale a visé une base militaire israélienne dans la colonie de Geshver Haziv, selon cette source. Les forces armées yéménites affirment avoir lancé une attaque au missile contre un navire israélien naviguant dans la mer d'Arabie dans le cadre de leur campagne visant à forcer le régime occupant à mettre fin à son agression contre la bande de Gaza. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a déclaré lundi que les forces yéménites ont tiré plusieurs missiles sur un porte-conteneur du régime israélien. Les missiles ont touché le navire de manière précise et directe, a expliqué le général Sari. L'attaque survient après les attaques de drones et aux missiles balistiques des forces yéménites contre des navires de guerre américains naviguant dans la mer Rouge. Par ailleurs, les médias ont fait état d'un nouvel incident maritime dans le golfe d'Aden. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies accuse les troupes israéliennes de maltraiter les habitants de Gaza, y compris des femmes et des hommes, durant la guerre, après que les Palestiniens en détention ont signalé des mauvais traitements infligés par les forces du régime sioniste. compilé par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, le rapport non publié indique que des centaines de Gazaouis ont été illégalement détenus par Israël pendant le conflit. Au moins 1000 prisonniers ont été détenus par Israël sans aucune inculpation dans 3 sites militaires situés dans les territoires occupés, ajoutant que certains d'entre eux sont morts en détention. La principale agence des Nations Unies pour les affaires palestiniennes a déclaré lundi qu'après leur libération, les détenus de Gaza étaient revenus complètement traumatisés, faisant état des abus commis pendant leur captivité. Le plus haut responsable iranien des droits de l'homme a fustigé les pays qui ont imposé des sanctions illégales à la nation iranienne, appelant à ce qu'ils soient tenus responsables de leurs crimes contre l'humanité. Kazem Gharibabadi, secrétaire du Haut Conseil iranien des droits de l'homme, a fait ses remarques lundi 4 mars à l'université Allameh Tabatabai à Téhéran, où s'est tenu un procès fictif simulant des procédures contre ceux qui appliquent des interdictions unilatérales à ceux qui les respectent. Les sanctions constituent des crimes contre l'humanité car elles violent le droit au développement, à la prospérité, à l'éducation, au logement et en d'autres domaines, a-t-il déclaré. Ceux qui imposent des sanctions étendues à la République islamique d'Iran commettent des crimes contre l'humanité et devraient en être tenus responsables, a ajouté Kazem Gharibabadi. Malgré les capacités de la République islamique d'Iran dans le domaine médical, le pays a été témoin des conséquences mortelles des sanctions inhumaines pour les groupes vulnérables de patients. Il a notamment évoqué le cas de patients atteints de maladies rares comme EB et la maladie papillon. Il a également déclaré que les mesures coercitives unilatérales sont considérées comme des armes de guerre en raison de leur impact considérable sur les pays cibles. Les sanctions sont plus destructrices que la guerre conventionnelle et affectent l'ensemble de la population du pays visé, a-t-il ajouté. Le responsable iranien des droits de l'homme a en outre déclaré que les États-Unis exerçaient des pressions sur divers pays afin de les amener dans le cycle de sanctions secondaires contre la République islamique d'Iran. Les soi-disant sanctions intelligentes qui s'appliqueraient prétendument à des individus ou entités spécifiques ne sont que des slogans, car elles n'épargnent pas la nourriture et les médicaments, a-t-il souligné. Parmi les intervenants lors de la séance de lundi figurait Alena Duhan, rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur l'impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur les droits de l'homme. Elle a prononcé un discours au tribunal fictif par vidéoconférence. L'expert des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies s'est rendu en Iran du 7 au 18 mai 2022 et a ensuite publié un rapport. Elle a déclaré que les sanctions anti-iraniennes ont affecté presque tous les aspects de la vie du pays et a appelé à leur levée. La livraison de médicaments et d'équipements médicaux à l'Iran a été gravement compromise par les effets des sanctions, a-t-elle noté. Cela constitue de sérieux obstacles à la jouissance du droit au meilleur état de santé possible par tous les Iraniens. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a retiré Washington de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 en mai 2018 et a imposé de sévères sanctions économiques à la République islamique d'Iran dans le cadre de ce qu'il a appelé la campagne de pression maximale. Le successeur de Trump, le président Joe Biden, a conservé ces interdictions comme levier de pression.
Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette émission. Nous allons donc présenter l'émission Débat et le sujet est la famine à Gaza. Donc tout de suite, je vais vous proposer un reportage qui résumera la situation humanitaire et sanitaire de Gaza et par la suite nous ferons venir nos deux invités. Tout de suite donc, notre reportage.
Sciences Unies préviennent qu'en l'absence de tout changement dans la guerre génocidaire en cours menée par le régime israélien contre la bande de Gaza, cette région est en passe de connaître une famine totale. James Laerk, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, a tenu ses propos lors d'une conférence de presse à Genève vendredi. Si quelque chose ne change pas, une famine est presque inévitable au vu des tendances actuelles, a-t-il averti, avant d'indiquer, une fois qu'une famine est déclarée, il est trop tard pour trop de gens. Nous ne voulons pas en arriver à cette situation et nous avons besoin que les choses changent avant cela, a-t-il souhaité. Nous devons examiner ce que de plus en plus de voix, de plus en plus fortes, disent à propos de la situation de la sécurité alimentaire dans la bande de Gaza, en particulier dans le nord, a-t-il ajouté. Cela intervient un jour après que le chef des droits de l'homme des Nations Unies s'est dit consterné face à la brutalité avec laquelle le régime israélien menait la guerre. Il semble n'y avoir aucune limite, aucun mot pour décrire les horreurs qui se déroulent sous nos yeux à Gaza, a déclaré Volker Türk au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Jusqu'à présent, plus de 30 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués à la suite de l'attaque militaire israélienne. Israël a mené sa guerre génocidaire contre Gaza le 7 octobre après que le groupe de résistance palestinien Hamas a lancé l'opération Temple d'Al-Aqsa contre l'entité usurpatrice en représailles à ses atrocités accrues contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et dans les territoires occupés. Parallèlement à la guerre, le régime sioniste a imposé un siège complet à la bande surpeuplée ayant coupé le carburant, l'électricité, la nourriture et l'eau aux plus de 2 millions de Palestiniens qui y vivent. Le système de santé de la bande de Gaza est à genoux, alerte Christian Lindmeier, le patron de l'Organisation mondiale de la santé OMS, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, notant que la moitié des 36 hôpitaux de l'enclave ne fonctionnait plus du tout. Tous les canaux vitaux à Gaza ont été plus ou moins coupés.
Donc, nous revoilà dans les studios. Tout de suite, nous allons annoncer nos invités. Première été, vous la connaissez, c'est Madame Aïssar Midani. Madame Aïssar Midani, ravie de vous avoir avec nous, experte surtout de la région du Moyen-Orient. Merci encore d'accepter nos invitations à nos débats.
Merci de votre invitation. Bonjour à votre équipe et bonjour à votre invité.
Alors, notre deuxième invité étant M. Bernard Cornu. Alors, depuis le 7 octobre, nous sommes ensemble depuis le début. M. Cornu, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Malheureusement, plus les semaines passent, plus il y a de moins en moins d'espoir de voir la situation s'améliorer. Et avec le mois du Ramadan, ça devient de plus en plus préoccupant. M. Cornu, ravi de vous avoir avec nous en tant qu'invité.
Bonjour à tout le monde.
Alors, dans mon studio, je n'entends aucun son de la part de nos invités. Alors, est-ce que les choses peuvent se régler? Alors, Madame Aïssar Midani, alors j'ai envie de parler de deux choses qui peuvent être, qui sont différentes, mais qui peuvent se relier. Nous savons que les organisations internationales, les organismes humanitaires ont indiqué que la famine était pratiquement là. Quand on parle de famine, on parle surtout d'un organisme humain qui ne mange plus depuis plusieurs jours et donc dont certains organes ne fonctionnent plus comme il le faut. Donc, arrivé à un certain point, si on le sait d'un point de vue médical, on ne peut plus sauver la personne même si elle est nourrie. C'est vers là que va Gaza, que vont les Gazaouis. Et de l'autre côté, on a aujourd'hui, depuis ce lundi, une réunion de l'OTAN dans le nord, dans le nord de l'Europe, et 20 000 soldats ont été regroupés, 20 000 soldats, c'est 20 000 soldats qui pourraient sauver des vies à Gaza, j'ai envie de dire, qui pourraient en tout cas, arrêter le conflit, stabiliser les choses au niveau des voies humanitaires. On a également le fait que l'OTAN ait soi-disant été créée pour éviter les dangers mondiaux. Alors, Madame Aïssar Midani, entre les deux événements qui se passent aujourd'hui, à ce lundi, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Écoutez, de toute façon, l'entreprise génocidaire israélienne, elle est réelle et ils ne cachent pas leur jeu. Donc, leur objectif, c'est effectivement non seulement affamer, mais tuer toute la population, ou alors provoquer un exode et un exil total de cette population. L'État d'Israël l'a affirmé à plusieurs reprises par la bouche de son premier ministre Netanyahou, appuyé d'ailleurs sans compter par les États-Unis qui sont aussi un autre État génocidaire. Il faut quand même rappeler que depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à présent, il y a des millions de personnes qui ont été tuées dans le monde par les entreprises américaines. Alors, cette réunion des soldats, effectivement, de l'OTAN, etc., elle n'est jamais faite pour sauver des vies, et c'est toujours pour agresser, pour tuer, pour affamer. Il faut quand même rappeler que la politique américaine par excellence est celle de ce qu'ils appellent des sanctions, c'est-à-dire des mesures coercitives au peuple, où on arrête on casse tout, en fait, on crée un blocus sur la population en but de l'affamer, de l'anéantir, en fait, tant qu'elle ne se met pas à genoux. Alors, le problème des Palestiniens, c'est qu'ils ne se mettent pas à genoux et que les Américains leur en veulent à mourir, puisqu'ils continuent à lever la tête depuis 100 ans. Ils exigent effectivement la libération de leur territoire, de la Palestine qui leur appartient, qui sont leurs terres, et que les Israéliens ont usurpé par l'appui d'ailleurs de tous les pays, des pays impérialistes américains, britanniques et français, et maintenant allemands. Donc, ça ne plaît pas du tout. Donc, ils sont prêts à tuer tout le monde sans problème. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que particulièrement sont visées les femmes et les enfants, qui sont aussi les femmes qui sont non seulement qui perpétue l'espèce, mais aussi qui perpétue la culture du pays, la culture de l'histoire, et qui raconte l'histoire de la Palestine, qu'ils n'ont pas oublié, comme souhaitaient Golda Meir et Ben Gurion, et que de plus en plus les générations continuent à vouloir l'indépendance de leur pays, à se battre pour cette indépendance. Et voilà qu'en plus, aujourd'hui, j'ai envie de dire quand même, avec la complicité des pays environnants, on accomplit un génocide tout en faisant des parodies et des parades de balancer de la farine par le ciel. Mais peut-être c'est la feuille de vigne qui cache leur crime qui cacherait leur crime et leur complicité. Donc franchement, c'est un génocide avec complicité à la fois des instances internationales qu'on appelle soi-disant pour sauver les gens, mais qui sont aussi complices par leur inaction. C'est bien de constater la famine, c'est bien de dire « Ah là là, les hôpitaux ne fonctionnent plus ». Mais quand les Israéliens bombardaient les hôpitaux et ont décidé de créer la famine, ces mêmes organisations n'ont protesté que par des petites voix et n'ont rien fait, ne font rien, parce qu'ils sont complètement abolis et anéantis, et ils sont aussi soumis au diktat américain.
Merci, Madame Aïssar Meidani. Alors, Monsieur Cornu, vous qui pensez que les relations entre les pays, les États doivent exister et doivent se poursuivre, qu'il y a des systèmes et des outils existants au niveau international pour bloquer un pays dans sa mauvaise voie, j'ai envie de dire, comme je l'ai dit à Madame Aïssar Meidani, aujourd'hui, il y a la réunion otanesque, là, dans le nord de l'Europe, où 20 000 soldats ont été regroupés. Comme j'ai dit, quand on sait quelle est la situation à Gaza et qu'on sait que ce sont les Israéliens et l'entité sioniste qui bloquent les voies des camions humanitaires, ces 20 000 soldats seraient beaucoup plus utiles pour donner de la nourriture que d'aller faire des exercices qui ne vont que créer plus de tensions dans la région, notamment en Ukraine et en Russie. Monsieur Bernard Cornu, en vue de la situation très hypocrite, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que là, on ne peut plus parler que juste du mot hypocrisie.
Oui, plus que des soldats, ce seraient des policiers internationaux qui seraient utiles pour faire appliquer par la force les décisions de justice, les ordonnances de justice qui ont été déjà prises par la différentes cours de justice, la Cour internationale de justice, et bientôt la Cour pénale internationale, qui a été saisie aussi par de nombreux avocats internationaux, par l'État de Palestine lui-même, qui a droit. Mais malheureusement, ces cours de justice n'ont que les moyens du Conseil de sécurité, donc qui sont bloquables par les grandes puissances, par les États-Unis, alors qu'il faudrait créer justement une police internationale pour pouvoir appliquer ces décisions de façon juste et rapide, afin de pouvoir mettre la justice dans les faits. Actuellement, c'est vrai que la justice internationale a beaucoup progressé dans les paroles, dans les décisions de justice, dans les dossiers. C'est très clair, les documents de la Cour internationale de justice sont très clairs, très référencés, sont difficilement contestables pour la plupart des points, mais ces cours de justice n'ont pas encore les moyens de faire appliquer leurs décisions. Donc j'espère que cette Cour, ces moyens de justice vont progresser, c'est par là qu'il faut avancer certainement, et il faudra aussi, je pense, imposer une réforme du Conseil de sécurité, puisque actuellement il n'y a aucune chance que les résolutions sous chapitre 7, qui sont les seuls moyens contraignants qui peuvent être appliqués par la force dans le cadre du droit international de la Charte des Nations Unies, soit applicable, parce que les Américains mettront encore leur veto. Donc comme ils sont complices depuis le début, depuis plus de 100 ans, dans la création d'un foyer national juif en Palestine afin d'avoir une base aérienne pour contrôler l'ensemble du Moyen-Orient qui est riche en pétrole et en gaz, et tous les gens stratèges le savaient à l'époque, il y a plus de 100 ans, parce qu'il y a des connaissances géologiques, des connaissances, et l'Irak notamment, et le sud de l'Iran, on savait qu'il y avait des gisements de pétrole affleurant, donc tout ceci était connu, et tous les gens savaient, à l'époque où on inventait le moteur diesel, les moteurs des sous-marins, très rapidement, les choses se sont développées très rapidement, et les stratèges ont tout de suite compris que la Mésopotamie et le Golfe étaient une région stratégique pour le reste des siècles à venir.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, Malaïssar Milani, vous avez connu la guerre en Syrie, vous avez connu donc cette hypocrisie, cette volonté de l'OTAN d'être présent de plus fort dans la région sous prétexte de terrorisme, de groupuscules terrorisme. Et vous savez comment les choses se passent en termes de conflit, hein, plus de 500 000 morts directes en Syrie, indirectes beaucoup plus, le double voire le triple. Les chiffres ne sont pas encore nets par rapport à ce qui s'est passé en Syrie, mais on est sur du 500 000 sûr. On parle du double ou du triple par rapport à des morts indirectes, donc les famines, les maladies, les sanctions. Madame Midani, au vu de la session, y a-t-il encore un espoir que les pays se réveillent et sanctionnent avant le ramadan, sanctionnent donc l'entité sioniste pour le pousser finalement à faire venir les camions au sein des territoires gazaouis? Est-ce que c'est possible encore? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir à ce niveau-là?
D'ailleurs, je voudrais, je vous remercie d'avoir parlé de la Syrie parce qu'il y a une famine aussi qui est en Syrie, qui est en silence, hein, puisque les États-Unis, avec l'aide de ses proxys avec Israël, ils ont aussi exercent un blocus catastrophique sur la Syrie pour affamer. Après avoir incendié la culture, après avoir détruit des hôpitaux, après avoir fait tout pour faire partir aussi les médecins du pays. Et en fait, heureusement, la Syrie ne s'est pas effondrée et donc elle continue à vivre avec ses moyens. Les moyens que le pillage des Américains lui laisse, en fait, parce que je rappelle quand même qu'il pille tout le pétrole syrien et tout le blé syrien. Donc, en fait, il nous laisse très peu de moyens de subsister. Que maintenant, effectivement, il pratique la même chose vis-à-vis de Gaza, vis-à-vis de la Palestine entière, parce qu'il ne faut pas oublier la Cisjordanie, qui est aussi sous blocus et sous contrôle des forces israéliennes, malgré le fait qu'ils aient signé les accords d'Oslo où la Cisjordanie devait être autonome sous la direction de l'autorité. Mais en fait, c'est Israël qui y règne et qui détruit à son bon vouloir tout ce qu'elle veut détruire, y compris aussi les cultures et les maisons et les hôpitaux. Donc ça c'est aussi, mais à mon avis, il n'y a absolument, enfin le ramadan est quand même dans une semaine et il n'y a absolument aucun moyen de stopper effectivement cette entreprise de sape et de destruction, je dirais, de génocide visant à affamer la population en Palestine. Parce que, en fait, hein, et si ça se fait, ces aides hein, au compte-gouttes, etc., c'est pour garder les gens vivants, mais sans aucune force. Hein, donc, juste pour leur permettre de vivre hein, en les mettant à genoux. Et les spectacles des attaques, en fait, par les avions israéliens et par les chars israéliens, des personnes qui viennent chercher l'aide alimentaire qui vient, le peu d'aide alimentaire qui a pu filtrer et qui a pu arriver, ça en dit long sur la criminalité de cet État génocidaire et sur sa volonté d'anéantir effectivement la population, mais sa volonté sadique aussi. Ce n'est pas tuer, mais c'est une mort lente qu'ils veulent imposer au peuple palestinien, qui ose dresser sa tête face aux diktats israéliens et américains pour revendiquer l'indépendance de son pays.
Merci Madame Midani. Monsieur Cornu, vous avez parlé donc d'une police internationale, mais il en existe une, en tout cas Elle a déjà été réunie. On parle des casques bleus. Il y a déjà eu donc une réunion de soldats spécialisés pour aller notamment donc atténuer les choses et séparer les deux groupes qui se faisaient la guerre. Donc ce ne n'est pas quelque chose de nouveau dans le système international. Et pourtant, on n'en est qu'aujourd'hui à parler d'éventuelles sanctions contre l'entité sioniste. On est quand même à 150 jours de conflit, dont plus de la moitié avec des hôpitaux en difficulté, voire pratiquement inexistants. Donc détruit. On est vraiment détruit. Enfin, quand je dis inexistant, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de matériel, puisque le matériel, ça fait depuis longtemps qu'il n'existe plus. Donc, M. Cornu, comment on peut en arriver à une police internationale quand aucun pays ne veut bouger?
Oui, effectivement, les casques bleus sont un moyen. Ils sont appliqués à la frontière au sud du Liban. Ils sont appliqués ailleurs aussi, dans le Golan occupé, enfin dans certaines parties du monde. C'est effectivement l'article 22 de la charte qui permet, et ceci a été évoqué d'ailleurs récemment par un avocat sur votre chaîne, cet article permet au secrétaire général de créer des organes subsidiaires dans le verre. Toujours il y a le veto possible des Américains, donc ça serait dans ce cas-là, il y a peu de chances que ça se passe, sauf si on arrivait à trouver les termes qui soit acceptable pour les Américains, sous pression d'autres membres du Conseil de sécurité, et sachant que la situation est effectivement extrêmement terrible, que, comme ça a été dit dans votre reportage, beaucoup d'États occidentaux savent que maintenant, ils sont jugés comme complices de la poursuite d'un génocide, puisque ceci a été déclaré, et que la Convention sur le génocide demande à chacun de dénoncer ces actes-là et de dénoncer les pays complices de la poursuite de ces génocides. Donc le crainte de la justice va peut-être commencer à influencer, mais c'est que s'il n'y aura un outil d'application indépendant de ces décisions de justice que les dirigeants de nos pays occidentaux pourront s'exécuter. Actuellement, comme vous l'avez évoqué, ils font des actions de propagande en jetant à très grands frais quelques tonnes de victuailles par les airs, ce qui est une humiliation pour les Palestiniens. Plusieurs Palestiniens ont dit « nous ne voulons pas de cette aide-là, nous voulons que les camions passent, nous voulons la liberté, nous voulons l'indépendance. Voilà. »
Ah, il faudrait…
Ouais, les images sont quand même assez inhumaines.
Que les pays environnants… Pardon.
Allez-y, Madame Idani, allez-y, Madame Idani.
Oui, je pense qu'il faudrait que les pays environnants fassent effectivement pas seulement pression, qu'ils fassent pression contre Israël pour ouvrir déjà les passages, parce que Rafah est quand même en terre égyptienne et que c'est l'État égyptien qui dirige normalement le passage de Rafah. Il y a aussi d'autres passages. Et on voit quand même la Jordanie l'Égypte et les Émirats arabes unis qui continuent à envoyer des vivres, qui continuent à envoyer des vivres à Israël et pas à Gaza. Il faudrait que ces pays-là se sentent concernés effectivement par ce génocide et par cette grande tuerie du peuple palestinien, d'une part. Ça, d'autre part, il faudrait aussi que les pays au niveau de l'ONU rejettent la dictature américaine sur le Conseil de l'ONU, déjà, et que les votes soient plutôt à la majorité des pays et pas du tout avec ce veto. Ce veto qui est antidémocratique et qui est dictatorial, qui permet aux États-Unis d'anéantir toutes les décisions. Il faut quand même rappeler que 153 pays qui étaient pour le cessez-le-feu à Gaza et que les États-Unis ont fait fi de tout ça, qu'ils continuent à constituer un pont aérien aussi de munitions et d'armement d'aide à Israël. Donc en fait, aujourd'hui, ceux qui font le génocide, ce n'est pas seulement Israël, mais c'est Israël et les États-Unis, avec tous les laquais des États-Unis dans la région. Il faut le dire quand même. Et malheureusement, alors que ce sont des pays arabes, ils ne se sentent pas capables de s'opposer à ce génocide en s'opposant aux diktats américains.
Merci, Madame Aïssa Miladi. Merci, Monsieur Bernard Cornu, pour la participation à ce débat, à votre expertise, également votre point de vue et à votre soutien également, parce que là, on doit parler de soutien à la cause palestinienne. C'est ici que se finit notre débat. On présente toutes nos condoléances aux familles palestiniennes touchées par la situation, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, parce qu'on n'oublie pas qu'en Cisjordanie aussi, il y a des morts, il y a des emprisonnements injustes, il y a des souffrances. Les deux parties de la Palestine souffrent et Presse TV se joint aux condoléances mondiales pour la cause palestinienne. Dans tous les cas, moi, je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat. Et on espère tous qu'au prochain débat, comme depuis le 7 octobre, les choses s'améliorent. Au revoir.
Le tourisme gastronomique en Iran. Le tourisme gastronomique, également appelé tourisme culinaire, est un type de voyage touristique associé à la cuisine locale dans le but de découvrir l'histoire, le savoir-faire et la culture d'un pays à travers ses spécialités culinaires. Le tourisme gastronomique en Iran est une série de 36 émissions qui tente de faire découvrir à nos fidèles auditeurs la riche cuisine iranienne. La province du Gilan est située dans la belle et verdoyante région septentrionale de l'Iran et son chef-lieu est la ville d'Orasht. La province est une destination préférée des touristes et des voyageurs pour de nombreuses raisons, notamment du point de vue gastronomique. Il semble raisonnable d'appeler Gilan l'une des provinces les plus délicieuses d'Iran et de continuer à l'explorer. Restez avec nous. La différence alimentaire reflète les différences culturelles. Sa nature culturelle montre de nombreuses différences des aliments d'une région à l'autre. Et ces différences remontent à l'origine des produits alimentaires, aux divers goûts et cultures en matière de nutrition. Aujourd'hui, les habitudes alimentaires sont considérées comme un ensemble complexe d'activités culinaires, de tendances et d'intérêts, de conscience collective, de croyances, de tabous, de superstitions liées à la préparation, à la cuisine, à la consommation des aliments, et en un mot, elles sont considérées comme un concept culturel riche. Selon le rapport de l'Organisation mondiale du tourisme, le facteur le plus important dans le choix d'une destination touristique sont les motivations culturelles. Ensuite, la nature est considérée comme le facteur suivant en deuxième position et la nourriture en troisième place. Les chercheurs estiment que la part de la nourriture dans l'industrie du tourisme est d'environ 15% et que la part de la nourriture dans les voyages touristiques coûte en moyenne entre 150 et 200 dollars. De plus, selon les experts du tourisme, la raison pour laquelle 86% des touristes reviennent à l'endroit qu'ils ont déjà visité est d'avoir une expérience culinaire bonne et mémorable. La cuisine des habitants du Gilan apporte une contribution sérieuse et significative au marché alimentaire halal, à l'attraction touristique en raison des façons uniques de cuisiner et de préparer les aliments. Le Gilan possède l'une des diversités culinaires les plus riches du pays et compte tenu de la variété des plats dérivés, des caractéristiques naturelles et climatiques de la région, il a créé une grande capacité pour attirer les touristes gastronomiques. La cuisine locale du Guilan présente plusieurs caractéristiques importantes qui diffèrent en quelque sorte de la cuisine des autres régions du pays. L'une de ces caractéristiques est la grande variété d'aliments d'origine végétale, de sorte que si une femme guilanaise le souhaite, elle peut cuisiner des plats végétariens aux saveurs différents jusqu'à 30 jours sans utiliser de viande. Certains de ces aliments identifiés avec le suffixe « taré » dans la culture alimentaire du Guilan sont « toshetare », « ranchetare », « shirintare », « ishkanetare », « pilastare », « turangzabonitare », « kuitare », etc. La caractéristique de tous les plats dont le nom se termine par « taré » est que des feuilles d'ail fraîches sont utilisées dans leur cuisson. La deuxième caractéristique de la cuisine du Guilan est l'existence d'une variété d'aliments appelés « restauration rapide » dans la culture alimentaire mondiale d'aujourd'hui. La caractéristique de ces aliments est qu'ils sont cuits et prêts à être consommés dans les plus brefs délais et leur nom porte le suffixe « beach ». Des aliments tels que « sirobi beach »,« habit beach », »,« panir beach », etc. Une autre caractéristique de la cuisine locale du Guilan est l'utilisation intelligente des aliments qui prévient l'apparition de certaines maladies. Par exemple, nos ancêtres ont découvert par leurs expériences que l'ail est considéré comme un agent anti-humidité qui est à l'origine des rhumatismes et ils ont utilisé cette plante dans la plupart de leurs plats. Aujourd'hui, selon les recherches scientifiques et les preuves des propriétés médicinales de l'ail, nous constatons que son utilisation dans la plupart des plats de cette région n'était pas sans raison. Une autre caractéristique de la gastronomie du peuple du Guilan est que les ancêtres de cette région ont découvert, grâce à leurs expériences, qu'ils pouvaient éliminer les effets néfastes d'un aliment sur le corps avec un aliment opposé. Par exemple, sur la table à manger du Guilan, l'achevel caviar de poisson, qui est très salé et augmente la tension artérielle, est souvent présent. Mais dans un autre coin de la même table, il doit y avoir des haricots verts qui réduisent la tension artérielle et ont un rôle équilibrant et complémentaire à celui de l'épeautre. Hyacinthe Louis Rabineau, qui était le consul général du gouvernement britannique dans la ville d'Orache au début du XXe siècle, a écrit dans le livre « Les provinces caspiennes de la Perse, le Guilan » à propos de la cuisine de la province septentrionale. « La nourriture principale des Guilanais est le tchelo, riz cuit à l'eau, un morceau de poisson salé. Les habitants des grandes agglomérations de cette région ne consomment pas de pain. » Le poisson blanc caspien est l'un des poissons les meilleurs et les plus savoureux du nord de l'Iran, avec un goût très délicieux. Le poisson blanc caspien, comme les autres poissons, possède de nombreuses propriétés, dont les plus importantes sont les protéines, le calcium, le potassium, le magnésium, la vitamine B, un teneur élevé en phosphore. Ce poisson est pêché dans les eaux de la mer Caspienne et des rivières des deux provinces septentrionales, Guilan et Mazandaran. Le poisson blanc caspien est l'un des poissons les plus populaires et de haute qualité. Bien sûr, certains considèrent que le poisson blanc n'est pas adapté au fait car il contient trop d'arêtes et est long à manger. Le poisson blanc a une texture très douce et normale et il n'est ni trop difficile ni étrange à cuisiner. Le secret du délice de ce poisson réside dans le bon assaisonnement du poisson lui-même et de l'huile utilisée pour l'offrir. Différentes méthodes sont utilisées pour cuisiner ce délicieux poisson. Certaines personnes font frire le poisson blanc dans l'huile en ajoutant un peu de sel et de poivre, tandis que d'autres préparent ce poisson farci avec des accompagnements. Apprenons davantage sur la façon de le préparer. Le poisson blanc à Caspian est l'un des poissons les meilleurs et les plus savoureux consommés dans le nord de l'Iran.